Bon, nous poursuivons notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes rendus au chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets 7 à 12. Donc, Ecclésiaste 6, versets 7 à 12. On va lire le passage et ensuite, on va regarder un peu le contenu de tout cela. Alors, Ecclésiaste, chapitre 6, versets 7 à 12. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie, de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui, sous le soleil? Alors, le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui, au passage-là, c'est Ce que la poursuite des richesses entraîne inexorablement pour l'homme. Alors, un peu l'idée fondamentale qui conduit le texte, l'idée conductrice, qu'on pourrait dire, du texte, c'est vraiment le fait que quand l'homme poursuit les richesses, qu'il le fait inexorablement, ça l'entraîne aussi inexorablement des conséquences pour lui. Alors cette poursuite, on va voir trois points dans l'intérieur du passage de 7 à 12, c'est que cette poursuite-là va entraîner l'inassouvissement. Quand on dit que quelque chose est inassouvi, ça veut dire qu'il n'apporte pas la satisfaction recherchée. Dans les versets 7 à 9. Deuxième idée, c'est que cette poursuite va entraîner l'endommagement. Versets 10 et 11, on va voir de quelle façon quelqu'un qui poursuit inexorablement les richesses va avoir un effet d'endommagement. Son âme va être endommagée. Non seulement son âme, ses relations avec Dieu, ses relations avec son prochain, etc. Troisième point qu'on va regarder, c'est que cette poursuite va entraîner le questionnement. On va voir dans le verset 12. Alors, à venir jusqu'ici, on a vu que l'Ecclésiaste, qui est, dans le fond, l'Ecclésiaste, ça veut dire le prédicateur, l'Ecclésiaste veut démontrer la vanité et la folie d'amasser inlassablement des richesses en espérant trouver le bonheur en elles, sans la grâce et la présence du Seigneur dans sa vie, accompagné aussi par l'obéissance à ses lois. L'homme ne sera jamais véritablement heureux et connaîtra une suite ininterrompue de déceptions amères et stériles. Alors, on va examiner spirituellement les conséquences inévitables de la vaine poursuite des richesses. Alors, on avait parlé que la première idée, c'est que cette poursuite entraîne l'inassouvissement. Bien entendu, on va parler de l'inassouvissement des besoins de son âme. Parce que ça dit dans le verset 7, Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et toutefois, son désir n'est jamais assouvi. Donc, c'est l'inassouvissement. Quel que soit le travail que nous faisons dans le monde, nous ne pouvons avoir pour nous-mêmes que la satisfaction des besoins du corps. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Alors on sait que la nourriture et le vêtement devraient nous suffire, mais alors on sait aussi que l'environnement de l'homme et ses propriétés ne lui apportent aucune satisfaction réelle, malgré le luxe et l'abondance. Ses besoins les plus criants, qui sont plus au niveau de l'âme, ne sont pas comblés. Il n'y a rien dans cette poursuite-là pour la tête, pour le cœur, pour rien pour nourrir ou pour enrichir son âme. Si on recule un peu dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, dans les versets 10 à 11, il y a quelque chose qui nous est enseigné par le Seigneur concernant le fait que on se doit d'abord de nourrir notre âme. Alors, Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 et 11. « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc, si Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, en poursuivant les richesses matérielles, les biens et les honneurs, etc., l'homme ne poursuit pas la seule chose qu'il devrait poursuivre. Donc, la compréhension de pourquoi il est sur la terre et qu'est-ce que Dieu veut de lui, etc. Alors, Dieu a créé l'humanité dans son intention éternelle. Et lui seul peut satisfaire notre désir d'éternité. Toutes les religions sont fondées sur ce désir inné de l'homme d'être connecté à Dieu, qui ne peut être satisfait que par Dieu et peut donc être comparé à un vide en forme de Dieu. Je pense que c'est Augustin qui disait ça, qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide et qu'il a la forme de Dieu. Et tant qu'on a, ne fait pas entrer Dieu, tant que Dieu ne nous a pas donné par grâce de venir habiter notre cœur, c'est comme on sent un immense vide qui ne peut être comblé par les choses matérielles et par la poursuite des biens, des richesses terrestres. Le problème est cependant que l'homme ignore ce vide ou cherche à le remplir par d'autres choses que Dieu. Malheureusement, il en est trop qui passent leur vie à courir après autre chose que Dieu pour répondre à leur quête d'un sens à donner à l'existence. Souvent, il va chercher à trouver sa réponse dans le travail, dans la famille, dans le sport, dans la poursuite du prestige ou des biens matériels. Mais la quête éperdue de ces choses fugaces ne les satisfait jamais. Et ils se demandent pourquoi leur vie ne les satisfait pas. Si beaucoup de ceux qui courent après d'autres choses que Dieu parviennent indéniablement à un certain degré de bonheur, un certain temps durant. En étudiant la vie de Salomon, qui avait conquis toutes les richesses, connu le succès, alors il avait connu l'estime et la puissance du monde, bref, tout ce à quoi l'homme aspire dans cette vie, on ne voit qu'aucune de ces choses n'a comblé son besoin d'éternité. Il a déclaré que tout que cela était comme de la fumée ou de la vanité, ce qui signifie que la quête de ces choses ne l'avait mené à rien parce qu'elle ne pouvait le satisfaire. Donc, on avait vu l'inassouvissement des besoins de l'âme. Deuxièmement, dans le verset 8, on a l'inassouvissement de son besoin de s'élever au-dessus des autres. Donc, malgré qu'un homme devient riche, devient puissant, devient connu, devient illustre, et a un besoin de s'élever au-dessus des autres qui ne sera jamais assouvi. Alors, ça dit dans le verset 8, « Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a l'affligé qui sait se conduire parmi les vivants? » Le sage ne jouit pas plus que l'insensé. L'insensé trouve autant de plaisir dans le travail de ses mains que le sage. L'homme sage ne peut obtenir plus de satisfaction pour son esprit et pour ses gratifications extérieures que l'insensé. Qu'est-ce que le pauvre ou l'affligé veut de plus que l'homme riche? S'il sait comment se procurer son pain, s'il est diligent et industrieux parmi les hommes pour vivre sa vie, et qu'il a un gagne-pain pour lui-même et sa famille, il jouit de toutes les douceurs et de tous les conforts de la vie, aussi bien que l'homme riche. Là, on voit ici qu'une chose importante, c'est que l'être humain, lorsqu'il ne poursuit pas les bonnes choses, il n'est pas heureux, et l'homme le plus simple de la terre qui, lui, se contente de ce que Dieu lui donne, il sait en jouer dans le cadre des lois de Dieu, est aussi bien que lui dans son immense prestige et aussi dans son immense jouissance de tous les biens que le Seigneur peut bien lui donner, mais dont il ne profite pas correctement. Dans le verset 9, on a aussi l'inassouvissement des désirs fugitifs et vagues. On va lire le verset « Il vaut mieux voir de ses yeux que d'avoir des désirs vagues. Ceci aussi est une vanité et un tourment d'esprit. » Autrement dit, l'être qui court après les richesses et le prestige et les honneurs, il va toujours avoir des fugitifs, ça veut dire qu'il fuit devant lui. Il va toujours avoir une suite de désirs qui sont toujours en avant de lui et qu'il ne rencontre jamais et dont il n'est jamais satisfait. Non seulement ses désirs sont fugitifs, mais ils sont aussi vagues, comme ça dit. Cela aussi, parce qu'il dit, vaut mieux voir de ses yeux que d'avoir des désirs vagues. Alors, par l'expression « voir de ses yeux », on ne veut pas dire la vue extérieure des richesses, mais plutôt la jouissance et l'appréciation des miséricordes présentes. Les choses dont un homme est en possession devraient le contenter. On lit par exemple dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, au verset 5, le Seigneur nous donne un avertissement. Il dit « Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors vraiment, le contentement, c'est pour un chrétien, c'est le secret d'une vie heureuse, parce que quand on parle d'exemple d'avarice, bien, celui qui poursuit les richesses et qui n'est jamais satisfait, c'est ça qu'il poursuit. Il est vraiment dans l'avarice, il s'enfonce dans l'avarice, autrement dit. Alors, les désirs fugitifs et vagues nourrissent la luxure insatiable de l'esprit cupide. Ces désirs s'agrandissent comme l'enfer, engloberaient toutes les richesses de la création et n'apporteraient pas davantage de réelle satisfaction. Quand on pense à ça, l'être humain, on le sait parce que l'observation, ce qu'on entend autour de nous, il y a des personnes qui n'ont pas seulement des millions, qui ont des milliards, et même pour certains encore davantage. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Non, ils en veulent encore davantage. C'est comme un gouffre sans fin. Alors, tous ces désirs insensés, comme le verset 9 le dit, cela aussi est une vanité et un tourment d'esprit. Donc, les personnes qui se livrent à cela, c'est ce que les Écritures appellent vanité, et aussi, ils ne sont jamais en paix avec eux-mêmes, ni avec leur entourage, ils sont toujours un tourment d'esprit, ça veut dire qu'ils sont toujours dans la souffrance, en réalité. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que cette poursuite entraîne l'endommagement. Quand on parle ici de l'endommagement, c'est que quelqu'un qui se livre à cette activité-là, et sans cesse, de façon incessante, il va connaître des dommages. Il va connaître des dommages pour son âme. Verset 10, ça dit « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on ne sait que celui qui est l'homme, qui est homme, ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Verset 11, quand on a beaucoup de vanité. Quel avantage en a l'homme? Alors, l'âme et la destinée de l'homme a été endommagée par plusieurs facteurs. Bien sûr, on sait que ça a été très certainement endommagé par la chute initiale d'Adam. Dans le verset 10a, ça dit « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. » Alors, ce qui peut être compris du premier homme Adam, qui a existé, qui a été produit par la puissance immédiate de Dieu, le créant et le formant à partir de la poussière de la terre. L'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, une créature sage et savante, riche et puissante. La figure de celui qui devait venir étant la tête et le représentant de toute sa postérité. Il tenait son nom du Seigneur lui-même, adapté à sa nature et à sa formation. Dieu appela son nom Adam, qui vient du mot hébreu Adama, qui veut dire la terre, d'où il fut pris. Et bien qu'il fût si sage et si grand, il avait connu la tentation même qui l'a affecté, lui et sa postérité. C'était le piège que lui tendait son ennemi. Il n'était qu'un homme tiré de la terre, tiré de la poussière, et qui va y retourner de nouveau. Quand on parle de l'endommagement de la chute initiale d'Adam, on peut la voir dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Alors, quand ça dit dans le verset 10, la première partie du verset 10, « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom », ça peut faire référence à la chute initiale d'Adam. Deuxièmement, le deuxième dommage, c'est l'endommagement par la rébellion et la contestation avec Dieu. La deuxième partie du verset 10 dit « Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. » Alors Dieu ayant déterminé par la providence toutes les circonstances de l'homme, comment qu'un homme essaiera de se rebeller contre ça, il ne peut pas rien faire. Alors les mots, quand on parle de plus fort que lui, les mots doivent être compris de l'humanité en général, de tous les hommes, non seulement ceux qui ont été, mais qui sont ou qui seront. Ceux-ci ont tous venu à l'existence par le Seigneur. Ils ont été dans ses desseins et décrets éternels, et leurs noms sont écrits ou non écrits dans le livre de vie de l'agneau. Cela est particulièrement vrai des personnes les plus célèbres qui aient été dans le monde. Ils ont obtenu un nom parmi les hommes, et ont été connus pour la sagesse, pour la richesse, pour la force, ou pour le pouvoir, ou pour leur autorité. Certains ont poussé l'audace jusqu'à se prétendre Dieu et exiger qu'on leur attribue un culte divin, comme par exemple les empereurs romains. Toutes les choses relatives aux affaires temporelles des hommes, leur naissance, leur lieu de résidence, leurs appels et les stations de vie, autrement dit les métiers qu'ils vont faire, leur rang social, leur rang économique, etc. Alors, bien entendu, il en va de même pour leur situation de pauvreté ou de richesse. Il est impossible aux hommes de contester leur destinée et les décrets de Dieu sur leur vie. Nous savons qu'ils n'étaient que des hommes perdus et non pas des dieux. Troisième dommage, c'est le dommage de risquer de s'enraciner dans la convoitise qui va toujours aller en croissant. Verset 11. Quand on a beaucoup de vanité. Quel avantage en a l'homme? Il ressort de tout ce qui a été dit dans ce chapitre et dans les chapitres précédents que l'homme est lui-même une pauvre créature vaniteuse et qu'il n'est et n'a que vanité. La convoitise et le cumul des richesses ne servent qu'à augmenter sa vanité, son tourment d'esprit et son malheur, le rendant ainsi de plus en plus vain. Il ne retire absolument aucun avantage pour son âme. L'homme ne peut trouver sa satisfaction et son bonheur qu'en Dieu lui-même. Alors, quand le verset 11 finit, quel avantage on a pour l'homme? L'homme qui fait ça ne trouve aucun avantage pour lui. Tout ce que ça réussit, quand il dit qu'on en a beaucoup, on a beaucoup de vanité, autrement dit, plus il va avancer dans le cumul des richesses, plus il va s'embourber dans sa quête inutile. Troisième idée, on avait vu que cette poursuite entraîne aussi le questionnement dans le verset 12. Verset 12 dit « Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les jours de la vie de sa vanité, qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil? » Alors, on sait que les hommes, en général, vont tous passer par un questionnement sur le sens de la vie. Autrement dit, ils vont se demander « Qui suis-je? D'où je viens et où je vais? » Il n'y a pas personne qui peut éviter cela. Tôt ou tard dans la vie, on en vient avec ces questions-là. Et ce n'est très certainement pas en poursuivant les richesses, en poursuivant de vouloir cumuler des richesses, qu'on va pouvoir répondre correctement à cette question-là. Parce que la réponse, c'est que les gens qui suivent, qui vont chercher à répondre à cette question-là par le cumul des richesses, ne trouveront jamais une réponse satisfaisante. Parce que c'est juste ta compréhension qui on est. On est des êtres humains créés par Dieu dans le but de le glorifier. Et d'où nous venons, on vient justement du fait que la création humaine, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse, et où allons-nous? Dépendamment de la façon dont on a vécu, si on a reçu la grâce de Dieu ou non, bien entendu, où allons-nous? Alors ça, c'est les trois grandes questions de type, qu'on prenne, les questions de type existentiel, auxquelles tout homme, l'humanité est confrontée. Chaque homme tente de répondre à ces questions. S'il répond à ces questions, en croyant que la richesse est la réponse à sa quête existentielle, il se trompe tragiquement et sa destinée éternelle est en danger. Alors, le verset 12 nous dit « Qui sait ce qui est bon pour l'homme? » Alors, le questionnement qu'un homme va se faire dans sa vie, il ne saura même pas distinguer qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est pas bon pour lui. Comme ça dit dans le verset 12, la première partie. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les jours de sa vanité? Être dans un état de vie supérieur ou inférieur. Vivre dans la grandeur ou la misère. Être riche ou pauvre. Savant ou ignorant. Occasionne tant de péchés. Et n'aboutit souvent qu'à la ruine. Personne ne sait ce qui est le mieux pour lui, car il est dans cette direction-là, de la poursuite des richesses. Par conséquent, la manière la plus sage est de se contenter de ce qu'un homme a, d'en profiter sagement et de l'utiliser aux meilleures fins qu'il peut. Donc, on a le questionnement, il n'arrive pas à répondre qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Et il n'arrive même pas non plus à répondre à ce qui est bon pour lui. Le deuxième questionnement aussi, c'est le questionnement sur la brièveté de la vie. La première partie du verset 12, il dit « Sa vie passe comme une ombre ». Quand on se promène au soleil et qu'on voit notre ombre passer, c'est vrai que ça passe vite. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte aussi qu'il y a énormément de vérité là-dedans, parce que la vie passe d'une grande, grande rapidité. Alors, la vie passe comme une ombre. Mm. Et la deuxième partie du verset 12, ça dit « Et qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil ?» Bien entendu, on ne peut pas savoir entrer là-dedans. On rentre dans le conseil secret de Dieu. C'est la vie humaine que Dieu fait passer comme une ombre, soit rapidement. En un mot, c'est une description de la vanité, de la brièveté et de l'incertitude de la vie humaine. C'est la vie de l'homme, une vie très vaine, la vanité même. Et la deuxième partie du verset 12, le questionnement sur le futur et sur sa destinée. Quand ça dit, la deuxième partie, « Et qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil? » L'homme ne se connaît pas et personne ne peut l'informer de ce qu'il adviendra de ses richesses après sa mort. Qui en jouira et quel usage on en fera? Seront-elles utilisées pour le bien de leurs possesseurs ou pour le bien des autres ou au contraire pour leur malheur? La poursuite effrénée de la richesse empêche l'homme de réfléchir sérieusement, de méditer sur son état spirituel et sur sa destinée éternelle, soit aller au ciel, soit aller en enfer. L'homme a désespérément besoin de la grâce de Dieu. Alors, je vois au moins trois applications à partir de cette brève étude de ce passage-là. Alors, les applications, c'est les richesses, la poursuite des richesses. Est-ce que nous sommes pleinement persuadés que cette poursuite-là ne comblera jamais les besoins profonds de notre âme? Est-ce que nous sommes pleinement persuadés qu'elle ne nous donnera aucun réel avantage sur l'insensé et sur le pauvre? Et est-ce que nous sommes pleinement persuadés qu'elle nous gardera prisonniers de la convoitise insatiable et mettra notre destinée éternelle, la destinée éternelle de notre âme, en danger? Alors, on a aussi la deuxième application. Donc, est-ce qu'on est pleinement persuadé que la poursuite des richesses va nous mener nulle part, comme on dit? La deuxième application, est-ce qu'on est conscient des dommages causés à notre âme si nous poursuivons cette route, si nous demeurons sur cette route? Alors, il faut être conscient que les richesses peuvent, premièrement, nous séduire et nous donner l'illusion de se libérer des effets de la chute. Parce que quelqu'un qui est riche, il pense qu'il peut éviter la maladie, il pense qu'il veut éviter les souffrances, il pense qu'il peut éviter même la mort. Aujourd'hui, on est avec le transhumanisme, on est rendu là, l'homme pense qu'il est capable de conquérir la vie éternelle par la science et par la technologie. Alors, les richesses peuvent nous séduire et donner l'illusion de se libérer des effets de la chute. Maladie, souffrance, mort. Les richesses peuvent aussi nous faire croire que nous pouvons lutter contre Dieu dans ses décrets providentiels dans nos vies. Alors, si la Bible nous enseigne que toute notre vie a été décrétée de Dieu, sans que ça, on ne fait pas, on est libre, Mais en étant libre, Dieu savait d'avance tout ce qui nous arriverait, tout ce qu'on vivrait. Et quelque part, on ne peut pas lutter contre les décrets de Dieu. Comment qu'on luttera, ça ne donnera absolument rien, ça ne donnera aucun résultat. Et aussi, concernant les richesses et les dommages causés à notre âme, on se doit de réaliser qu'elles contribuent à nous enliser dans la convoitise avec ses très graves dangers, tant pour le corps que pour l'âme. L'enlisement, je me souviens d'une fois, on était à l'île d'Orléans, il y avait un camion qui s'était pris un petit peu dans notre cour arrière, et au lieu de faire appel à de l'aide, il s'est mis à peser sur l'accélérateur, qui faisait en sorte qu'on voyait, même en observant, on voyait sa roue s'enliser dans la boue. Alors, on peut prendre cet exemple-là pour nous dire que si quelqu'un continue, malgré les avertissements que Dieu lui donne, il va finir par un peu comme ce camion, il va s'enliser dans et il ne pourra pas s'en sortir par lui-même sans la grâce de Dieu. Et la troisième application, c'est concernant les grandes questions de la vie humaine. Les richesses ne peuvent aucunement répondre aux grandes questions existentielles de l'homme. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Alors que la poursuite des richesses ne peut pas répondre, mais la Bible peut. Concernant aussi les questions de la vie humaine, les richesses n'aident pas à expliquer la brièveté de la vie et aussi de nos fragilités humaines. Et les richesses ne peuvent aussi nous montrer ce qui est véritablement bon pour l'homme. L'homme ne peut pas réaliser ce qui est bon pour lui en poursuivant en même temps les richesses, les honneurs et toutes ces choses vaines de la terre. Et aussi, l'homme se doit de réaliser que les richesses sont un obstacle pour la réflexion quant au sens de la vie et du besoin absolu de Dieu dans nos vies. Si l'être humain ne se rend pas compte que ça l'empêche de réfléchir sur le sens de la vie et sur le fait qu'il a un besoin absolu de Dieu, il fait vraiment fausse route. Et sa destinée éternelle est vraiment en très très grand danger. La seule chose qu'il peut faire avec intelligence, c'est d'au moins implorer le Seigneur d'avoir pitié et miséricorde sur lui et de lui accorder sa grâce. Alors que notre grand et glorieux Seigneur nous donne gracieusement de ne poursuivre qu'un but dans la vie, celui de le connaître, celui de l'aimer et celui de le servir. Amen.